Bien, nous passons au séminaire d'aujourd'hui et notre invité est Pierre Insouline. Je dirais que le premier livre de lui que j'ai lu, c'est sa biographie de Kahn-Weller à la fin des années 80. Livre très intéressant sur une personnalité tout à fait intéressante. Je crois que le second que j'ai lu, c'est la biographie de Gaston Gallimard. Personnalité tout aussi intéressante que celle-là. Aujourd'hui, je ne suis pas arrivé jusqu'au moment où je citerai, mais ce sera donc la prochaine fois, les Camondo, à propos de ces pages sur Swann et sur les origines de la famille Swann. Mais Pierre Insouline a aussi écrit une très belle, très beau livre sur le, je crois que c'est le dernier des Camondo qui s'appelle. Et bon, personnalité importante dans ce milieu proustien. Bon, il a écrit et publié tellement de livres que je ne vais pas en citer beaucoup. Le dernier, je crois, c'est celui qui s'appelle Une question d'orgueil, publié chez Gallimard l'année dernière, en 2012, et qui est une biographie romancée, encore une fois. Et si j'ai pensé à le faire venir ici, bon, c'est pas tellement en raison de son blog, hein, La République des livres, qui est sûrement le blog littéraire le plus fréquenté. Je crois que c'est le blog littéraire le plus fréquenté en français, j'imagine. Je ne connais pas le palmarès des fréquentations, mais c'est parce qu'il a publié, il y a 2 ans, un ouvrage qui est intitulé « Autodictionnaire Proust », dans la collection Omnibus, et que je pensais donc qu'il avait quelque chose à nous dire de la manière dont il avait lu Proust, puisque c'est la question que j'ai posée à tous ses invités. Comment ils ont lu Proust, dans quelles circonstances, et ce que Proust leur a apporté tout au long de leur vie personnelle et professionnelle. Et le titre que vous avez proposé, c'est « Tom Proust, biographie », ce qui reste un peu mystérieux pour moi, mais le mystère va sûrement...
Pour moi aussi, oui.
Ah bon, mais alors ça ne va pas, le mystère ne va pas s'éclaircir.
On va voir. Merci. Merci en tout cas de votre invitation qui me touche beaucoup, qui m'embarrasse parce que le principe même de l'exercice auquel vous nous conviez, quand on est invité chez vous, c'est l'exercice de l'immodestie. Non pas que les écrivains soient immodestes par nature, loin de là, mais en public c'est plus difficile puisqu'il faut parler de soi. Et bon, on va essayer. D'ailleurs, j'ai failli le dire, il faut parler de Swann. Vous vous rendez compte déjà? Alors, proustienne, proustien, proustologue, proustophile, proustomane, proustolâtre, proustifiant, et sait-on jamais proustophobe? Que de monde! Qui eût dit que tant d'amateurs de littérature se seraient damnés depuis un siècle pour un entiché d'altesse qui n'était peut-être même pas leur genre? En tout cas, merci de m'admettre en votre compagnie. Je remarque au passage que ceux qui se sont dit « grâce à une tempête de neige, on aura une place chez Compagnon » se sont trompés. Même en cas de tempête, c'est complet chez vous. Hein. Je sais qu'il y en a 3, c'est vous, c'est Confucius et la Bible. Hein, c'est les 3. Hein.
C'est une religion.
C'est une religion. Alors j'ai oublié quelque chose dans ma liste de Proustiens. En fait, pour le commun des lecteurs, que vous n'êtes pas, bien sûr, Le Rouge et le Noir, c'est Stendhal. Mais pour d'autres, c'est à la fin du côté de Guermantes, quand, au moment d'aller dîner, alors qu'ils sont pratiquement montés en voiture dans la cour de leur hôtel, le duc de Guermantes dit en substance à Oriane « Mais enfin, c'est impossible. Des souliers noirs avec une toilette rouge, vous n'y pensez pas. » Et Proust de prendre prétexte de ce détail, somme toute, trivial, pour se livrer à travers de discrets échanges entre le duc, la duchesse et Swann, à une éblouissante et pathétique méditation sur la mort. Eh bien, pour nous, le rouge et le noir, c'est ça. Beaucoup plus que Stendhal. Ceci pour dire que le problème avec vous, avec nous, puisque nous en sommes tous ici, et avec quelle jubilation, le problème, c'est que tout se ramène à Proust. On a tendance à dire qu'on n'invente rien, que tout est dans la Bible, et que ce qui ne s'y trouve pas est dans Shakespeare. Entendez la petite voix dans le fond et le doigt levé qui dit « et dans la recherche du temps perdu aussi ». Nul n'est moins mort que Proust. L'abbé Munier pourrait le dire aujourd'hui encore. D'ailleurs, peut-être vous êtes au courant de l'événement qui va se dérouler jeudi à 13h. Certes, la poursuite du conclave en la chapelle Sixtine, mais il y a plus important encore. Je suis sûr que vous l'ignorez, vous qui savez tout sur Proust. C'est le chat, vous savez ce que c'est qu'un chat, hein ? Oui. Oui. C'est le chat en direct organisé par la direction du grand quotidien britannique The Guardian entre ses lecteurs et Christopher Prendergast, professeur émérite à Cambridge, traducteur et éditeur de la nouvelle version de In Search of Lost Time. Il répondra à toutes leurs questions et dévoilera un peu de son travail en cours sur Proust et le scepticisme. Pas actuel, Proust ? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en 2013, en Angleterre, c'est de ça dont on parle. Proust et le scepticisme et tout le reste. En direct, sur le site d'un grand quotidien britannique. Je vois que vous allez suivre le chat jeudi à 13h. Quand on est un lecteur, c'est déjà pesant. Cette prison qu'on se donne, cette grille de lecture qui propose non pas une vision du monde, ce qui serait d'un intérêt relatif, mais bien une sensation du monde, ce que peu d'écrivains peuvent donner. Je ne citerai que Virginia Woolf, pour ne pas ouvrir les hostilités avec les autres. On ne voit guère qu'elle, à l'époque, qui ait su, comme Proust, avec un tel génie de la forme, reposant sur une alliance si puissante de la sensibilité et de l'intelligence, traduire l'émigration des sensations du monde visible dans l'invisible. Encore qu'un lecteur éprouvé qui se lance tardivement dans l'escalade de la recherche du temps perdu possède des armes pour se défendre dont un jeune lecteur ne dispose pas. On serait intimidé à moins. Je le sais parce qu'il se trouve que je suis aussi un peu enseignant, professeur, et il se trouve que mes étudiants sont parmi vous cet après-midi. Je suis chargé, en général, de leur apprendre à écrire. Avec Proust, entre autres. En fait, pour tout vous avouer, je le mets à toutes les sauces. Et l'année dernière, j'avais commencé en leur demandant de tweeter la recherche. Un tweet de 140 signes pour résumer cette volume. Alors, ils se sont regardés, effrayés. Ma grande crainte était que l'un me demande « C'est quoi la recherche ?» Finalement, un doigt s'est levé. Et une étudiante a timidement demandé « C'est quoi un tweet ?» Je me suis dit alors que tout n'était pas perdu. Il est vrai que ce sont des étudiants de Sciences Po, mais tout de même. Après tout, avant même l'invention de Twitter, Gérard Genette avait bien réussi à résumer toute la recherche en un tweet de 24 signes. « Marcel devient écrivain ». Mais quand on n'est pas seulement lecteur, mais qu'on se pique d'écrire, est-ce que vous imaginez comment être quelqu'un dans un pays où Proust est tout ? Imaginez un peu le désarroi du romancier français débutant. À moins qu'il veuille être Bret Easton Ellis ou rien, il lui faut d'abord gravir cet Everest, puis en redescendre, et après quelques vertiges, se résoudre à inventer d'autres montagnes en littérature, dût-il, dans un premier temps, se contenter de monticules. C'est l'une des raisons qui m'ont fait écrire tardivement mon premier roman, non sans avoir publié auparavant une quinzaine de livres. Comme si dans ce pays, la France, toute prétention à la fiction imposait d'abord de se mesurer à la recherche. Ce n'est même pas l'école ni le lycée qui nous y poussent. Eux, ils nous pousseraient plutôt à affronter la comédie humaine, les Rougon-Macquart, les hommes de bonne volonté. Mais c'est plutôt quelque chose comme la légende et le mythe qui nous font défier la recherche sur son terrain tout en sachant que c'est perdu d'avance. Voilà pour le romancier. Alors vous imaginez le biographe. Pour avoir publié 10 biographies, ainsi qu'un certain nombre d'articles sur la biographie, un art dont je ne suis même pas sûr qu'au fond, il était bien mon genre, j'en porte la marque, là, sur le front. Biographe. N'exagérons rien, ce n'est pas le B de la lettre écarlate. Mais enfin, ça m'a valu et me vaut régulièrement encore des propositions, parfois les plus farfelues, des éditeurs. Il y a bien des années déjà, l'un d'eux, à la tête d'une grande maison que je ne nommerai pas, m'invita à déjeuner et me piégea au dessert en me faisant, comme on dit dans les films de gangsters, une proposition qui ne se refuse pas. Ayant eu la faiblesse de lui confier un jour que Proust dormait à mon chevet de longue date, que je relisais la recherche tous les 4 ou 5 ans, que mon plus puissant souvenir de vacances fut sa énième relecture durant un été à Venise, sous le phare, au bout de la jetée de la plage du Lido, durement assis sur des blocs de béton loyal, où j'ai vécu l'illusion d'un bonheur sans égal, où j'ai compris, comme jamais auparavant, que l'histoire qui se dépliait alors dans ma mémoire allait désormais inclure non seulement le souvenir de cette lecture enchantée, mais aussi le souvenir du lecteur ébloui que j'ai été cet été-là. Mon édition de prédilection était la plus nue, la plus dépouillée, car on a tous une édition de la recherche, la sienne. C'est comme la Bible, pardon d'y revenir, mais quand on vous cite la Bible, il faut toujours demander laquelle, puisqu'il y a 12 de traductions en français. Pour les Anglais, c'est simple, c'est la King James. Et pour les Français, il y en a 12. Et donc, traduction change. Là, ce n'est pas les traductions de Proust en français qui changent, mais c'est l'ergonomie, l'arborescence, la présentation, donc l'édition. Et moi, mon édition de prédilection, c'est la plus nue, la plus dépouillée, la moins savante, puisque c'est le texte nu, absolument nu, sans la moindre note, même pas « longtemps, petit 1, je me suis couché, petit a, de bonheur, astérisque ». Je veux parler de cette brique, qui est l'édition Quarto de Gallimard, qui doit bien peser 2 kilos, et qui a l'immense avantage d'inscrire dans l'inconscient du lecteur que la recherche est bien un roman, et non pas 7 romans séparés. Mon exemplaire étant corné, abîmé, déchiré, crayonné, stabiloté, truffé, rongé par le sable et par le sel marin. Quand on les tourne, ces pages, il suffit d'écoller l'oreille pour y entendre le vent du large. Mais c'est un exemplaire si merveilleusement vivant, ne dormant que d'un œil dans la bibliothèque, dans le fol espoir d'être repris sans attendre l'occasion d'une prochaine villégiature. Bref, l'éditeur qui me piégea ce jour-là, sachant tout cela, babillant sur l'art et la manière de se souvenir d'une épopée du ressouvenir, l'incomparable noblesse de la vraie distinction, la richesse des métaphores, la petite phrase de la sonate de Vinteuil, Charlus déniant à Adalbert de Périgord le droit de porter le titre de duc de Montmorency, et puis sans coup faire rire, il m'encouragea à écrire une biographie de Proust. Jamais je n'aurais osé, jamais. Je signai un contrat, une folie, je ne parle pas de la somme, bien sûr, mais du projet. Je dénonçai le contrat moins d'un mois après et nous restâmes bons amis. Il faut comprendre. Pour le biographe, il y a 3 cas d'école. Le premier, le biographe a bien connu son héros. Bon, de ce côté-là, ça va. Il est parti un peu tôt, Proust, et je suis arrivé un peu tard. Mais enfin, j'étais très fier d'avoir souvent bavardé avec Philippe Soupeau, qui me racontait son Proust, avec qui il avait eu plusieurs longs entretiens, 7, je crois, dans un taxi, chaque fois, presque. Drôle d'endroit pour un rendez-vous avec un jeune homme fou de littérature. Mais enfin, bon, c'est Proust. J'étais très fier de dire partout que je connaissais l'homme qui connaissait Proust. Soupeau étant alors le seul de nos contemporains vivants à avoir le grain de la voix de Proust dans le creux de l'oreille et l'intensité de sa poignée de main dans le creux de sa propre main. 2 éléments essentiels pour un biographe. Car un biographe, si excellent soit-il, s'il n'a pas entendu la voix de son personnage, s'il ne lui a pas serré la main, il lui manquera toujours quelque chose. Enfin, Laurent Pierquin et André Mauroy ont eu le privilège d'écrire des biographies de Proust en ayant eu accès soit à lui-même, soit à son entourage et à leurs témoignages. Mais George Painter, par exemple, dans les années 50, aurait pu lui aussi avoir les témoins, mais il est passé à côté, il n'en a pas profité, pour des raisons que je ne m'explique pas. Deuxième cas de figure qui se présente au biographe, il n'existe rien, ou presque, sur son sujet. Ce fut mon cas pour les vies de Gaston Gallimard ou de Daniel Kahnweiler, sur lesquels il n'y avait pratiquement rien. Même pas les dates de naissance dans le Larousse. Tout est à trouver, à exhumer, à ressusciter. Ce qui ne va pas de soi, car on peut faire fausse route en l'absence d'archives, prendre des chemins de traverse qui ne mènent nulle part. Troisième cas de figure, on a beaucoup écrit sur son héros qui a lui-même beaucoup écrit. Et avant toute chose, il faut déblayer le terrain, c'est-à-dire tout lire par conscience professionnelle. C'est le cas de notre homme. Je l'avoue, c'est l'un des aspects qui m'a découragé. Ces milliers de lettres, billets, articles, brouillons, paperoles, bon, j'en ai lu énormément, j'ai lu toute la correspondance quand j'ai fait le dictionnaire. C'était dans un but bien précis. Mais là, ce n'est pas uniquement la correspondance, c'est tout. Tout ce qui sort de sa plume, et c'est énorme. Sans compter l'énormité de la bibliographie proustienne, l'Himalaya de la proustologie, première internationale universitaire, canal historique, qui entretient des services de décryptage et de renseignements généreux jusque dans l'archipel nippon. Que les fondations de la recherche du temps perdu aient tenu bon, que cette cathédrale de prose n'ait jamais été ensevelie sous le commentaire, l'analyse, l'exégèse, et qu'elle ait survécu à la névrose génétique, témoigne de sa capacité de résistance hors du commun et de sa véritable puissance. On voudrait leur dédier ce passage du temps retrouvé dans lequel Proust évoque, je cite, « cette fuite loin de notre propre vie que nous n'avons pas le courage de regarder et qui s'appelle l'érudition ». J'avais eu à surmonter cet écueil en me lançant dans la biographie de Georges Simenon, mais c'était moins impressionnant, moins décourageant. Il est vrai que Simenon n'avait pas écrit de contre Sainte-Beuve. Ce qui change tout. Enfin quoi, il faut être absolument inconscient pour se lancer dans la biographie de l'auteur de Contre-Sainte-Beuve. Bref, traité de disqualification par anticipation de tous les prétendants à la biographie de Proust. Il a jeté l'interdit, établi le tabou pour toute biographie d'écrivain. Alors vous pensez une biographie de Proust lui-même. Bizarrement, on se sent tenu de les défendre, envisagés en bloc comme une corporation mal aimée, ces biographes, contre les Proustiens. Tout ça, c'est la faute aux malentendus du contre-Sainte-Beuve. Ces malentendus ont tétanisé les biographes, et pas seulement ceux de Proust, cloués au sol dès l'envol par l'injonction devenue si fameuse qu'elle en est une tarte à la crème. Mon ami, l'éditeur Bernard de Fallois, en est grandement responsable. C'est lui qui a découvert, outre Jean Santeuil, le fatras de papiers divers qu'il a réuni sous le titre arbitraire de Contre Sainte-Beuve. Il ne l'a certes pas inventé, puisqu'il l'a trouvé dans une lettre de la main de Proust. Mais la remarque de Proust dans sa lettre, portée sur la préfiguration du roman et non sur cet ensemble de papiers, consacré comme un titre de livre, canonisé par la Pléiade, il est censé résumer l'hostilité viscérale de Proust à la biographie, comme si l'art de la biographie consistait à expliquer la poésie de Baudelaire par la couleur de ses yeux. Donatien Gros, qui vient d'y consacrer un essai, propose de débaptiser le livre pour le rebaptiser « Après Sainte-Beuve ». Et pourquoi pas ? Le précieux index général de la correspondance de Marcel Proust, mis au point par la Société japonaise d'études proustiennes, dans cet index, la fiction et la réalité se rejoignent dans le même corpus de l'index des noms de personnes et de personnages. On ne saurait mieux écrire. Même les illettrés savent que Proust oppose le moi intime, profond, créateur, au moi social, mondain, superficiel. Or, rien n'est plus fabriqué que cet antagonisme, surtout quand on le présente comme subversif en son temps, alors que, Antoine Compagnon le sait mieux que personne, Émile Faguet, les frères Goncourt et d'autres encore, avaient déjà critiqué la méthode de Sainte-Beuve. Jean-François Revel avait déjà bien montré que cela reviendrait finalement à opposer au moi qui dîne en ville, et le raconte dans ses livres, un moi qui ne mange jamais. Comme si son grand livre, le grand livre de Proust, n'était pas irrigué par sa vie, tandis que son sang coule dans toutes les veines de ses chapitres. Pas un fait, pas un mot, pas un son, pas une odeur, pas une couleur, pas une voix, pas une note de musique, pas une humiliation, pas un sourire qui n'en soit issu avant d'être naturellement malaxé, métamorphosé, transcendé. Tant et si bien qu'il est aussi vain de nier cette filiation que d'en chercher des clés. George Painter est responsable, comme je vous l'avais dit, je crois, une fois dans un texte, de la proustification de Proust et de la confusion entre la vie et l'œuvre. Mais quel plus bel exemple d'unité de l'œuvre à la vie et réciproquement que l'édification de cette grande machine romanesque. Elle a la négation même du principe exposé, succinctement mais radicalement, dans sa critique de l'esprit Sainte-Beuve. Mais à force de les tirer en théorie, les glosateurs en ont fait un axiome de nature à terroriser des générations de biographes. Car si Proust l'a dit, n'est-ce pas, il n'y a plus qu'à ranger les instruments de l'enquête et à changer de genre. N'empêche, avec la mort de George Painter et celle de Philippe Kolb, on a eu le sentiment de perdre quelqu'un de la famille. Eux, et puis aussi Quint, Mauroy, Diesbach, Tadier, Tchitati, Rachimov, ils l'auront tant aimé. Moi, je l'aime tout autant, et ma dette est infinie. Mais s'il m'a donné, je ne lui ai rien rendu en échange, abdiquant toute prétention à ajouter mon propre commentairuscule au commentaire infini déjà suscité par Proust et son monstre, sous peine de me tourner en ridicule. Et pourtant, comment un écrivain ne serait-il pas tétanisé par l'ombre portée de Proust ? Un universitaire réussira mieux à s'emparer d'un mythe qu'un écrivain trop impressionné. Quel parti pris aurait été le mien ? À vrai dire, ni Proust ni Sainte-Beuve, dans la mesure où l'on en a fait deux absolus de la critique littéraire, exclusifs l'un de l'autre. Mais si l'on prend la peine de nuancer leur jugement, on se laisserait volontiers aller à une critique qui intégrerait Proust et Sainte-Beuve. Combien de fois Proust lui-même est-il sorti du texte seul, du texte nu, pour s'aventurer dans le dédale de la vie et en tirer une information ? À défaut d'avoir à modifier la langue, comme Joyce et Céline l'ont fait, il a profondément bouleversé notre perception du monde en nous plaçant dans cette tension inconfortable mais si troublante où les secrets du sentiment luttent contre les vérités de l'intelligence. Proust a l'art de revisiter des lieux tristes, d'avoir été heureux. Comment n'être pas désespéré en se laissant convaincre par sa lecture que certaines heures de notre vie ne ressusciteront jamais ? Proust m'entretient. Entendez que Proust me parle personnellement. Sa puissance comique est insuffisamment soulignée, quand bien même André Mauroy s'y était employé, dans le vocabulaire, bien sûr, mais aussi les situations, les gestes, l'ironie, les mimiques, les quiproquos, les caricatures, le langage, l'autodérision, le pastiche, les manies, la satire, les jeux de mots, bien sûr. Rarement un romancier aura déployé un tel raffinement à se montrer farcesque. S'ensuit un rire par lequel l'auteur communique au lecteur sa propre jubilation, distinguée, bien sûr, sans que jamais le sentiment tragique de la vie ne cesse de traverser cette histoire. Snob Proust, on l'a tellement dit, on l'a tellement ramené Proust à la dimension décaduque de la recherche, alors que la recherche est une véritable enquête sociale, incomplète, bien sûr, puisqu'elle ignore l'école, l'armée, l'église, l'université, la justice, le monde du travail. Bien sûr qu'elle est incomplète. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en l'étant incomplète, Proust est parvenu à dresser un si profond tableau des sentiments et de la société en resserrant la focale sur moi, ce qui m'intéresse le plus, à savoir les maîtres et les valets, les rapports entre les maîtres et les valets. La recherche témoigne de ce que l'inspiration n'est rien, que l'imprégnation est tout, davantage encore au fond que l'observation, laquelle vaut surtout par la disponibilité à se laisser impressionner, comme une pellicule photo, par les détails et par les mots. Proust est en ce sens le grand percepteur des vérités cachées. Tout à son exploration du réel, il sait comme nul autre déployer le détail des sensations jusqu'à épuisement. L'air de rien, il enseigne qu'est doué de sens artistique celui qui se soumet à la réalité intérieure. En fait, vous et moi. Il écrit par exemple que nous vivons auprès de gens que nous croyons connaître, mais qu'il nous manque l'événement qui nous les révélera autre que nous les savons. Je dois vous avouer que cette phrase seule a suffi à modifier mon regard sur le monde. Je l'ai même placé en épigraphe, je ne sais plus de quel livre, parce que ça a changé complètement ma façon de voir les choses. Et lui, Proust, il nous pousse à la passion des nuances, qui n'est pas seulement l'enseignement même de la littérature, mais une leçon de vie. C'est un maître du regard. Il enseigne l'art du dégradé, de l'infime et du particulier. Et ça, c'est aussi une école de patience. C'est pour ça que beaucoup d'écrivains lui doivent énormément, sans même le reconnaître. Et puisque nous sommes invités à participer au roman, la fonction du narrateur étant aussi de faire partager l'invention de son œuvre au lecteur, autant y entrer selon le vœu de l'auteur, avec la conviction que notre vraie vie n'est autre que la réalité telle que nous l'avons sentie et non pas un réel prétendument objectif. Proust, je ne l'ai jamais entendu, évidemment, mais je l'ai beaucoup écouté. Sa voix m'accompagne. Il est celui qui m'a appris à écouter en moi-même. Je lui dois mon oreille intérieure. Il m'a appris à lire sans confondre la lecture et la conversation. Analogie séduisante mais trompeuse. Car la seconde dissipe la jouissance intellectuelle et le travail de l'esprit sur lui-même que seule la solitude du lecteur procure. Il m'a appris à me souvenir, c'est-à-dire à me déprendre de l'enregistrement heure par heure de ma vie, puis à me confier à l'oubli. Un classique, c'est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Comment ne pas être désespéré en se laissant convaincre par la lecture de la recherche que certaines heures de notre vie ne reviendront jamais. Et puis surtout, quelle leçon de liberté. Quand vous me demandiez qu'est-ce que Proust m'a apporté, j'avais envie de vous répondre par un seul mot, liberté. Reconnaissance éternelle qu'un exercice d'admiration ne saurait épuiser. Proust enseigne à l'écrivain à faire ce qu'il veut, à mettre tout ce qu'il veut dans un roman, surtout s'il veut un roman total. Histoire, histoire de l'art, géographie, poésie, anthropologie, que sais-je encore. Il permet aux écrivains de se désinhiber, surtout les écrivains français, si coincés dans leur catégorie, dans leur genre, dans leurs étiquettes. Bien sûr, il n'est pas le premier. Le premier, c'est Cervantes, enfin pour moi, c'est Cervantes. Cervantes fut le maître en la matière et son Quichotte demeure un indépassable incitateur à se libérer des chaînes de la narration. Mais enfin, Cervantes, on ne sait pas trop quelle tête il avait, alors que Proust, on connaît son sourire. Et puis, on l'a tous vu jouer de la guitare avec une raquette de tennis dans le jardin du Luxembourg, ça crée des liens. N'allez pas croire pour autant que c'est un écrivain pour écrivain, comme on le dit souvent de Faulkner. La recherche du temps perdu est à tous. Il faut se l'approprier. Elle ne demande que cela. C'est le vrai chef-d'œuvre en ce qu'elle nous explique ce qui nous arrive mieux que nous ne saurions le faire. Ces pages résonnent et retentissent en nous. Même Céline, oui, Céline, celui-là même qui expédia la recherche cum grano salis en estimant que, je cite, 20 pages pour dire que tuture en cultatave, c'est trop, eh bien, Céline avait fini par rendre les armes face au génie de Proust dans une lettre à Lucien Combelle. Dans une formule, d'ailleurs, dont Edgar Faure a fait son miel, Céline reconnaissait il y aurait eu deux grands écrivains en France au XXe siècle et l'autre s'appelait Marcel Proust. Marguerite Duras elle-même, dans l'une de ses conversations, a payé sa dette à Proust. Oui, Duras. Elle dit justement qu'il lui a appris la gravitation de l'esprit autour d'un axe unique qui est la conscience de l'auteur. Et qu'à cette seule condition, le monde créé tourne ou ne tourne pas. Et que si l'écrivain juxtapose à sa conscience une fausse conscience, apprise ou dictée, son entreprise non seulement manque d'harmonie, bien sûr, mais ne rend compte de presque rien. On s'en souvient, en un clin d'œil complice, sa maman adressait à son petit loup une phrase codée tirée du Bourgeois gentilhomme. fais comme si je ne le savais pas. On devrait l'apprendre au mot, s'en souvenir en relisant la recherche comme si on ne la savait pas. Il faut rester prêt à accueillir, fût-ce avec retard, ce qui nous avait échappé. De toute façon, une œuvre pareille, si on la reprend à tous les âges de notre vie, on la revit différemment, car notre regard a gagné en expérience et, qui sait, en sagesse. Un classique, j'y reviens, et c'est Italo Calvino qui nous l'a appris, qui l'a défini ainsi. Un classique, c'est une œuvre qui n'a jamais fini de dire ce qu'elle a à dire. Et vous avez bien raison, cher Antoine Compagnon, de nous inviter à relire Proust dans un certain état de naïveté. Comme si nous ne le savions pas, comme si nous ignorions que son ombre tutélaire domine la littérature française depuis un siècle. Naïf au sens ancien de naturel, fidèle à sa propre nature. Le lire presque comme ont pu le faire ses premiers lecteurs, ignorant de l'homme qu'il fut, ignorant de la science exégétique que sa création a suscitée, ignorant de la datation exacte du cahier d'Uxe et de tout le reste. Et puis ensuite, il faudrait écrire sa biographie, avec un peu moins de naïveté tout de même, en sachant que de toute façon, on sera critiqué, soit pour avoir trop lié l'œuvre et la vie, soit pour les avoir trop disjoints. Mais dans les deux cas, on sera critiqué. De toute façon, les Proustiens sont une secte assez intransigeante et ils n'acceptent pas facilement des interprétations qui bousculent le canon. En tout cas, cette biographie, que je n'écrirai pas, serait la première de l'ère Google. Non pas que le fait d'atterrir dans la chambre de Tante Léonie par Google Earth, ce qui est possible, je l'ai fait, change quoi que ce soit à notre intelligence du texte, mais la numérisation des manuscrits, la mise en réseau des sources et l'association de signes permises par le moteur de recherche pourraient permettre quelques lueurs nouvelles, surprenantes, peut-être même inédites. Non pas tant des documents, des archives nouvelles, il ne faut pas rêver, même si, un jour ou l'autre, les fameuses lettres torrides à Léon Daudet, dont parlait autrefois Julien Green, finiront bien par sortir des armoires de celui qui les conserve jalousement quelque part en Italie. C'est ce qu'on dit. On verra bien. En attendant, ce qui distinguerait une biographie de Proust de l'ère néo-Google par rapport à toutes celles de l'ère vétéro-Google, c'est le pas de côté dans la manière de regarder toute cette histoire. Je ne voudrais pas vous laisser sur un adieu désenchanté du genre « Comment je n'ai pas écrit une biographie de Proust ?» ni sur un constat amer du type « Contre Sainte-Beuve m'a tué ». En fait, comme souvent, lorsqu'on est habité par un désir de livre, non pas une idée de livre. Un livre, c'est jamais une idée. Un désir de livre. On tourne autour pendant des années jusqu'à ce qu'il vienne nous rattraper et s'impose à nous. C'est une question de forme. La forme adéquate pour ce qu'on a à écrire n'est pas qu'une question de kairos. Il faut que cela mûrisse, que cela rumine, que cela se décante, que des rencontres intérieures se fassent et que des croisements s'opèrent. Et puis un jour, ça advient ou cela n'advient pas. Il ne faut pas se forcer. Voilà pourquoi, après l'avoir ruminé pendant près de 20 ans, je vais vous confier, comme vous le savez, comme disait Sioran, on écrit pour dire des choses qu'on n'oserait confier à personne. Voilà pourquoi j'ai probablement m'attelé, non pas à une vie de Proust, mais à une biographie proustienne à ma façon, à mi-chemin du roman et du récit historique, en cherchant à documenter l'exactitude absolue d'une époque avant de la balayer au moment de la restituer pour mieux y asseoir sa vérité. Et de même que j'avais raconté l'aristocratie israélite en France au carrefour des deux siècles, dans le dernier Décamondo, puis la famille Rothschild vue par le portrait de la baronne Betty, peint par Ingres, je ressusciterai le monde de Proust, son univers familier, sa société, ses sociétés, à travers un personnage de la recherche. Ainsi pourra-t-on assister peut-être, si j'y trouve une grâce qui me manque pour l'instant, pourra-t-on assister peut-être à la rencontre historique entre l'auteur et le narrateur hors des pages du roman. Cela pourrait s'appeler le vertige du temps, ou quelque chose comme cela. D'ailleurs, Proust a fréquenté chez Camondo. Il était l'ami du fils du comte. Le jeune Nissim de Camondo, mort au combat pendant la Première Guerre mondiale, et dont le nom et le prénom ornent l'entrée du musée Camondo, rue de Monceau. Et on verra bien si Nissim Bernard, grand-oncle de Bloch, ne doit pas son prénom à ce Nissim de Camondo, Nissim, pluriel de Ness, qui signifie miracle en hébreu. Ce n'est pas impossible, étant donné que l'éducation de Proust était plus proche du catéchisme que du Talmud Torah. Encore que la récente révélation de la dimension du pain azim de la petite Madeleine ouvre des perspectives inédites. Et votre énigmatique, Tilala Talim, on pourrait faire remarquer que Talim est le pluriel de Tala en hébreu. Encore faudrait-il savoir ce que ça signifie Tala et si ça existe en hébreu. On fera des recherches. Voyez-vous, un biographe ne pourrait s'autoriser à explorer l'inconscient hébraïque de Proust, fils de merveille, fils de mère veille. Et encore moins sa mémoire archaïque. C'est là sa limite. C'est là qu'il passe le relais au romancier documenté, cet écrivain libéré après avoir été un biographe frustré. Mais j'en ai déjà trop dit sur ce projet. Un mot encore. J'ai dédié deux livres à un certain Marcel. C'est dire si je lui dois, mais ce n'était pas lui. Enfin, pas tout à fait lui. Autodidacte, tôt arraché au lycée, le mien n'avait jamais lu que des livres d'histoire. La Seconde Guerre mondiale l'occupait. À la fin de sa vie terrestre, il se tourna un peu plus vers la littérature, par curiosité et parce qu'il n'y a pas d'âge pour la découverte. Comme s'il n'y avait d'autre urgence alors qu'il s'apprêtait à faire le grand saut. Dans les derniers mois de sa maladie, il tomba sur La Recherche, en poche, par mois oublié, dans un rayon de sa bibliothèque. Il se saisit du premier tome de cette œuvre au monde avant d'en être à son tour saisi pour la première fois. Il s'y plut et m'en parla. Son regard d'agonie éclaira le livre d'une lueur jusqu'alors inconnue. Du côté de chez Swann, reposé à son chevet, lorsque son âme se détacha de son enveloppe charnelle. Voilà pourquoi, en vous remerciant de l'avoir écouté, je dédie cette conférence à mon père, puisque c'est en citant ceux qu'on a aimés et admirés qu'on les garde vivants.